Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 15 août 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
1900 civils ont été tués ces deux dernières années dans l'est de la République démocratique du Congo.
Au Nigeria, l'avocat et le gendre de l'opposant Atiku Abubakar ont comparu hier devant la justice, accusés de blanchiment d'argent.
Soudan, des sanctions des États-Unis contre Salah Gosh, l'ancien chef du renseignement du président déchu Omar el-Béchir.
Ici aux États-Unis, 6 policiers ont été blessés hier dans une fusillade avec un suspect retranché dans un immeuble à Philadelphie en Pennsylvanie.
Wall Street a clôturé nettement dans le rouge hier, plombé par les craintes d'une récession.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Selon Human Rights Watch et le groupe d'études sur le Congo, 1900 civils ont été tués ces deux dernières années dans l'est de la République démocratique du Congo. Le point avec Eddy Isango.
Les groupes armés ont tué 1900 civils et enlevé plus de 3300 personnes entre juin 2017 et juin 2019, notent les deux organisations qui parlent des provinces du Kivu sans préciser lesquelles. Plus de 130 groupes armés se battent dans l'est de la RDC, selon Lewis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale des Human Rights Watch. Au cours des deux dernières années, l'épicentre de la violence est les territoires de Beni, où près d'un tiers des meurtres des civils ont eu lieu, principalement à cause des combats entre les forces de sécurité congolaises et des miliciens ougandais musulmans des forces démocratiques alliées. Les ADF sont accusés d'être responsables de la mort de plusieurs centaines de civils dans une série de massacres depuis 2014. Par ailleurs, les rapports notent que contrairement à une opinion répandue, il n'y a pas de corrélation systématique entre la violence et les zones minières. Seulement 20% des incidents violents se produisent dans un rayon de 20 km d'une mine.
Plusieurs milliers de personnes ont réservé hier dans le sud-est du Niger un grand accueil à Issa Lemine, un ancien ministre et ex-chef rebelle Toubou, nommé gouverneur de cette région proche du Nigeria, l'une des cibles du groupe Boko Haram. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Des milliers de personnes venues de toute la région ont réservé hier un accueil chaleureux à un fils du terroir. Ce n'est pas le gouverneur seul qui a, comme certains le pensent, les clés du problème. L'implication de tous est indispensable pour qu'on s'en sorte, a déclaré Issa Lemine dans une réunion avec les responsables locaux. Nommé le 26 juillet dernier, M. Lemine, ressortissant de Difa, vient remplacer Mohamed Moudour en poste depuis seulement 5 mois. Il devient ainsi le 5e gouverneur de Difa depuis les premières attaques de Boko Haram en 2015. Monsieur Lemine a été plusieurs fois ministre entre 2000 et 2009 et député de cette région aride où vivent les Toubou, une ethnie minoritaire dont il est issu. Il est surtout connu pour avoir dirigé le Front démocratique révolutionnaire, une rébellion armée dans les années 90 qui réclamait le développement de la zone à la frontière avec le Tchad. Le FDR a cessé les hostilités après la signature d'un accord de paix avec les autorités nigériennes en 1998 à N'Djamena.
Au Nigeria, l'avocat et le gendre de l'opposant Atiku Abubakar, adversaire malheureux du président Muhammadu Buhari à l'élection de février dernier, ont comparu hier devant la justice qui les accuse de blanchiment d'argent. Des détails avec Michel Joseph.
Le gendre d'Atiku Abubakar, Abdullahi Babalele, et l'avocat de l'ancien candidat, Yuwijiwa Osaji, sont accusés d'avoir géré respectivement 140 000 dollars et 2 millions de dollars sans passer par une institution financière, d'après un procureur de la Commission des crimes économiques et financiers. Tous les deux ont plaidé non coupables hier devant le tribunal de Lagos. Les accusés ont comparu, détenus et retournent au tribunal ce jeudi, lors d'une audience où les juges vont se prononcer sur une éventuelle remise en liberté sous caution. La semaine dernière, Bola Dalé Adekoya, porte-parole de la campagne de M. Abubakar, avait accusé les enquêteurs anticorruption d'être plus dévoués à l'esprit de parti qu'à l'état de droit, les accusant d'agir au nom d'une autorité supérieure qu'il ne cite pas. Principal candidat de l'opposition, Atiku Abubakar a contesté en justice la réélection de Muhammadu Buhari pour un second mandat. Depuis, plusieurs opposants ont été ciblés par l'agence anticorruption, ce qu'il qualifie de chasse aux sorcières.
Les États-Unis ont sanctionné hier Salah Gosh, l'ancien chef du service de renseignement soudanais sous le régime d'Omar el-Béchir, en raison de violations flagrantes des droits de l'homme, le privant ainsi d'entrer sur le territoire américain, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le département d'État américain a placé Salah Gosh sous ce régime de sanctions à cause de son implication dans des violations flagrantes des droits humains. Sa femme et sa fille sont également interdites de séjour aux États-Unis, précise le communiqué du département d'État. Amnesty International avait par ailleurs appelé en avril les nouvelles autorités soudanaises de transition à enquêter sur le rôle de Salah Gosh à la tête des services de renseignement dans le meurtre de manifestants au cours du mouvement de protestation. Salah Gosh, qui avait repris la main sur le NISS, le puissant service de renseignement soudanais en 2018, après une première décennie à la tête du contre-espionnage jusqu'en 2009, a supervisé la répression contre le mouvement de contestation en décembre et avril. Les autorités américaines disent avoir, je cite, « des informations crédibles stipulant que Salah Gosh a été impliqué dans des actes de torture pendant sa période à la tête du NISS ». Fin de citation. Salah Gosh, à la tête du redouté NISS, avait démissionné en avril dernier, deux jours après que l'armée a renversé le président soudanais Omar el-Béchir à la suite d'une contestation inédite. M. Gosh doit répondre aux accusations de torture, de détention arbitraire et de violation des droits humains sous sa supervision, a écrit Amnesty International, ajoutant que sa démission ne devait pas l'empêcher de rendre des comptes.
L'Ougandaise Winifred Karagwa Byanyima, 60 ans, a été nommée directrice générale de l'Agence des Nations Unies de lutte contre le SIDA, ONU-SIDA, a annoncé hier le bureau du secrétaire général de l'organisation. Winnie Byanyima succède au Malien Michel Sidibé, dont le mandat a été terni par des accusations de mauvaise gestion. Elle a auparavant dirigé l'ONG Oxfam et a été une des responsables du programme des Nations Unies pour le développement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, au moins 6 policiers ont été blessés par balle hier à Philadelphie, en Pennsylvanie, mais leurs jours ne sont pas en danger. Ils ont été blessés par un suspect retranché dans un immeuble. L'incident avait commencé comme une affaire de drogue, a précisé le chef de la police. L'incident intervient après deux tueries de masse en août, l'une à El Paso au Texas, l'autre à Dayton dans l'Ohio, qui ont fait en tout 31 morts et ont profondément choqué les États-Unis.
Des forces chinoises appartenant apparemment à la police militaire étaient rassemblées jeudi dans un stade de Shenzhen. La métropole située aux portes du territoire autonome de Hong Kong a constaté un journaliste de l'AFP. Les hommes rassemblés étaient entourés de camions et de blindés de transport de troupes. Hier, les États-Unis se sont dit profondément préoccupés par les informations faisant état de mouvements paramilitaires chinois à la frontière avec Hong Kong, le territoire chinois qui a vécu 10 semaines consécutives de manifestations pro-démocratie.
Pour citer un porte-parole du département d'État américain, Washington encourage la Chine et toutes les parties à Hong Kong à trouver une solution qui respecte la liberté des habitants de Hong Kong et son haut degré d'autonomie tel que convenu dans la déclaration conjointe sino-britannique. Pour la deuxième fois cette semaine, la Chine a cherché hier à assimiler les manifestations à du terrorisme avec des avertissements de plus en plus inquiétants qui font craindre une répression militaire.
La Cour suprême de Gibraltar doit décider ce jeudi si elle autorise le pétrolier iranien arraisonné le 4 juillet près du territoire britannique à repartir. Ce pétrolier était soupçonné de livrer du pétrole à la Syrie en violation d'un embargo de l'Union européenne. Téhéran a rejeté ces allégations, assurant que le pétrolier naviguait dans les eaux internationales et accusant le Royaume-Uni de piraterie. Et le 19 juillet, l'Iran a immobilisé dans le détroit d'Hormuz un pétrolier britannique soupçonné, je cite, de non-respect du code maritime international.
Wall Street a lourdement chuté hier dans un climat d'incertitude entourant l'économie mondiale, alors que les signes précurseurs d'une récession aux États-Unis, dit-on, se multiplient. Au lendemain d'une séance où Wall Street avait fini dans le vert, porté par un répit dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington, la bourse new-yorkaise a replongé, mercredi, plusieurs indicateurs économiques suscitant une vague d'inquiétude chez les investisseurs. Des statistiques sur la croissance de la production industrielle chinoise, tombée au plus bas en 17 ans en juillet, ont jeté un froid sur le marché des actions. La contraction de l'activité économique en Allemagne au deuxième trimestre a rajouté au pessimisme ambiant.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour le premier trimestre de cette année, le Togo a enregistré une hausse de 16% des dépôts dans les microfinances, d'après la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, rapporte Togo First. Le Togo prend ainsi la deuxième place dans la zone UEMOA derrière le Mali. Ensuite viennent respectivement la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Les dépôts collectés pour ce trimestre dans l'ensemble de l'UEMOA s'élèvent à 1390,8 milliards de francs CFA contre 1248,7 milliards de francs CFA l'an dernier, soit une hausse de 11,4%. L'accès des populations aux services des microfinances s'est accru de 10,4%. La société d'enseignement privé sud-africaine Kuro Holdings investira 14,66 millions de dollars dans l'ouverture de 4 nouveaux campus. Kuro, qui gère des écoles et des établissements d'enseignement supérieur en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie, a connu une hausse fulgurante grâce aux parents frustrés par les écoles publiques sous-financées et surpeuplées. Au premier semestre, le nombre de ses élèves a augmenté de 13%, augmentant ses revenus de 19%. Terminons cette minute éco avec la Gambie, qui a reçu l'an dernier 245 millions de dollars de ses ressortissants vivant en Occident, soit une hausse de 17 millions de dollars par rapport à 2017. Cela représente 15,3% du PIB du pays. Ces envois dépassent les exportations du pays en 2018, qui sont de 91,62 millions de dollars.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Afro-basket féminin, l'Angola défie le Sénégal en quart de finale ce soir.
Oui, hier en huitième, l'Angola s'est imposée devant le Kenya 64-51. Les Antilopes Noires feront face aux Lions sénégalaises ce soir en quart de finale. Dans le deuxième rendez-vous de la journée d'hier, après son échec cuisant mardi devant le Mali 82-56, la RDC s'est reprise en dominant le Cap-Vert 78-46. Les Congolaises héritent des 10 Tigers du Nigeria en quart. Vice-champion en 2015, le Cameroun s'est incliné devant l'Égypte 63-68 lors des huitièmes de finale. Les Égyptiennes feront face ce jeudi au Mozambique en quart de finale.
En football, la Sierra Leone rejette le sélectionneur choisi par la fédération.
Le gouvernement sierra-léonais a rejeté la nomination à la tête de son équipe de football du Ghanéen Selas Tété. L'entraîneur de 62 ans avait été choisi par la commission de recrutement de la fédération après une procédure d'entretien complète et devait prendre ses fonctions dans les 48 heures. Il avait été préféré au Serbe Goran Stevanovic, à l'Hispano-Suisse Raoul Savoy, au Néerlandais Tassen Jabari et à l'Anglais Peter Butler. Le ministère des Sports dit ne pas reconnaître Salas Tété en tant que sélectionneur de l'équipe nationale parce que la procédure est incomplète, assurant que la procédure de désignation d'un sélectionneur sera bientôt achevée.
Laurent Blanc décline, lui, l'offre du Maroc pour sa sélection nationale.
Selon RMC Sport, le technicien français ne sera pas le prochain sélectionneur des Lions de l'Atlas après le départ d'Hervé Renard dans la foulée de la CAN 2019 où le Maroc a été éliminé en huitième de finale. La sélection des Lions de l'Atlas avait fait de Laurent Blanc son choix pour reprendre les rênes, mais l'affaire engagée n'ira pas plus loin. L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a décliné l'offre après 3 saisons à la tête des Girondins de Bordeaux et 2 ans au poste de sélectionneur de l'équipe de France. Laurent Blanc a coaché le PSG durant 3 saisons de 2013 à 2015. 2016. Le Bosniaque Vahid Halilhodžić est en bonne voie pour remplacer Renard à la tête des Lions de l'Atlas.
Liverpool remporte la Supercoupe d'Europe.
Eh oui, Liverpool a confirmé sa suprématie continentale en remportant sa 4e Supercoupe d'Europe face à Chelsea au bout d'une interminable séance de tirs au but hier à Istanbul. Pour cette première édition entre deux clubs anglais, un doublé du Sénégalais Sadio Mané a permis aux Reds d'égaliser après l'ouverture du score d'Olivier Giroud à la 35e, puis de mener à la 94e jusqu'à un pénalty transformé par Jorginho à la 100e, finalement sans conséquence pour Liverpool.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le sort des enfants dans le conflit malien. Plus de 150 enfants ont été tués lors d'attaques au Mali pendant le premier semestre 2019 et quelques 377 000 mineurs ont besoin d'une protection. C'est ce qui ressort d'un rapport publié cette semaine par l'UNICEF, l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Modibo Dambélé a joint à Bamako Eliane Loti, elle est responsable de la communication de l'UNICEF au Mali.
En effet, il s'agit de données des Nations Unies, donc des données préliminaires pour l'année 2019. De janvier en juillet 2019, il s'agit de données qui ont été vérifiées par différentes sources qui sont collectées par les Nations Unies. Quand on parle de 154 enfants tués déjà dans la première moitié de l'année, c'est vraiment une augmentation très grave, parce que si nous comparons avec les chiffres de l'année passée, sur toute l'année 2018, il y avait 67 enfants qui ont été tués. En seulement 6 mois, nous avons déjà le double du nombre. Et c'est vraiment un reflet de la détérioration de la situation humanitaire au Mali, surtout dans les régions du centre et les cercles qui sont frontaliers avec le Burkina Faso. La réponse, bien sûr, est déjà en cours avec les autorités locales et avec d'autres agences des Nations Unies et la société civile. Nous sommes en train de répondre à la situation, mais les besoins des enfants les plus vulnérables restent énormes.
Expliquez-nous les circonstances dans lesquelles les enfants sont morts.
La plupart de ces morts sont la conséquence de ces attaques à répétition que nous avons observées dans la région de Mopti, dans les cercles de Banjagara, Koro, Banka. Et malheureusement, il y a beaucoup de ces attaques qui sont commises à des moments où les enfants étaient très vulnérables. Donc, il y a eu des attaques qui ont été commises la nuit, par exemple, au petit matin. Nous savons, par exemple, que l'attaque qui a été commise à Ogosagou en mars 2019, qui a causé la mort à 85 enfants, a été commise très tôt le matin, alors que les enfants étaient toujours en train de dormir ou en train de se réveiller. En termes de blessures, les enfants qui ont survécu à ces attaques, mais qui sont blessés, il y a beaucoup d'enfants qui ont été blessés par balles. Il y en a d'autres qui ont subi des brûlures. Tout le corps. D'autres enfants ont souffert des fractures. Là, avec le ministère de la Santé et les autres partenaires pour fournir des soins de santé à ces enfants qui ont été blessés.
Déjà, il y a à peu près plus de 900 écoles qui sont fermées avec plus de 377 000 enfants qui ont besoin d'aide. Que font l'UNICEF et le gouvernement malien?
Nous avons compté 920 écoles qui étaient enfermées au Mali pour des raisons d'insécurité. La vaste majorité de ces écoles se situent dans la région de Mopti. Et vous savez bien sûr que le droit à l'éducation, c'est un des droits fondamentaux des enfants. Nous sommes en train de travailler avec les académies d'enseignement des différentes localités, donc avec le ministère de l'Éducation, pour mettre en place une réponse à cette situation. Donc, par exemple, nous avons mis en place des centres d'apprentissage communautaire, donc informels, où un animateur volontaire communautaire peut faire quelques leçons par jour pour des enfants des localités affectées. Le gouvernement a récemment ratifié la déclaration des safe schools, qui engage le gouvernement à s'assurer que les espaces et les écoles restent des espaces neutres et des espaces protecteurs, où les enfants peuvent continuer leur apprentissage.
Jointe à Bamako, Eliane Louti de l'UNICEF.
Restez branchés 24/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Togo, pour les 7 premiers mois de l'année, plus de 350 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route. Dès le 20 septembre, le permis de conduire sera obligatoire pour tous les motocyclistes au Togo. Reportage de notre correspondante à Lomé Kayi-Lawson.
Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2019, 3178 accidents se sont produits sur les routes togolaises, ayant occasionné 354 décès et 4483 blessés. Pour le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, les causes de ces accidents sont entre autres l'excès de vitesse, des dépassements mal faits, La distraction en circulation en raison de l'utilisation notamment du téléphone portable, la conduite en état d'ébriété et ou sous l'influence des stupéfiants. Dans ces accidents, les conducteurs de motos sont les plus impliqués du fait, soutient le gouvernement, que ces derniers ont une connaissance assez limitée du code de la route. Yak Damhan, ministre togolais de la Sécurité et de la Protection civile.
La division de la Sécurité routière a sensibilisé les conducteurs de moto à passer le permis de conduire. Permis de conduire, ça concerne beaucoup l'apprentissage du code de la route. Malheureusement, nos compatriotes motocyclistes ont encore du caillou dans le pied. Parce qu'ils se disent, permis ou sans permis, je peux piloter ma moto. Avec les conséquences que nous venons de voir. La mesure que nous avons prise, on arrête un motocycliste, il n'a pas de permis, sa moto a en fourrière.
Dès le 20 septembre prochain, le permis de conduire devient obligatoire pour tout motocycliste. Jean, détenteur d'un permis de conduire pour moto, salue la décision du gouvernement.
J'ai mon permis de conduire catégorie depuis 2015. Donc moi je vois que cette projet c'est une bonne proposition. Mais il faut que le ministre sache très bien que les Anglais disent « charity begins at home ». Il faut que les agents de sécurité eux-mêmes, ils n'ont qu'à essayer d'avoir d'abord le permis pour servir d'exemple.
Ce que le gouvernement a mis en compte, ce n'est pas mal, mais le temps qu'ils ont donné est trop court. Parce que il y a plein de motos. S'il faut que tout le monde fasse le permis de conduire de moto, ça va prendre du temps.
Pour réduire les accidents de circulation, Kodjo Agbetrobo fait une toute autre proposition.
Ce n'est pas le permis qui va permettre de réduire le nombre d'accidents. C'est plutôt de mettre les agents de force de sécurité à des carrefours pour éviter certaines choses. Par exemple, comment on roule sans respecter les feux rouges. Parce que ce n'est pas manque de permis qui font causer les accidents, c'est manque de conscience dans la conduite, surtout ça.
Le Togo s'est doté d'une loi relative au code de la route et le gouvernement compte appliquer cette loi dans toute sa rigueur pour réduire les morts sur les routes togolaises. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Les effondrements de bâtiments sont fréquents au Nigeria où les réglementations en matière de construction sont régulièrement bafouées. Une situation que déplorent les Nigérians qui estiment que la corruption est l'un des facteurs qui mine ce secteur du bâtiment. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Une enquête récente a révélé que des effondrements fréquents de bâtiments au Nigeria sont causés par des défauts structurels et des constructions illégales. Partout à travers le pays, l'utilisation des mauvais matériaux de construction est très répandue, selon l'ingénieur Joseph Odigure, secrétaire général du Conseil des ingénieurs au Nigeria.
Les effondrements de bâtiments dépendent de plusieurs facteurs, mais je vais me concentrer sur l'ingénierie. Tout ce que nous faisons est ingénierie. Tout est planifié. Et puis, toute chose possède une vie. De la même façon que nous vivons, c'est de la même façon que les matériaux aussi vivent. Donc, puisque tout est vivant, il est nécessaire de planifier et de maintenir ces structures.
Certains bâtiments jugés inhabitables par les autorités sont souvent rénovés par des propriétaires afin de leur permettre de mettre ces bâtiments en location et d'obtenir des frais de loyer. Mais pour Ayodele Iyemi, les seuls responsables sont les architectes.
Pour moi, il ne s'agit pas des propriétaires des bâtiments ni le gouvernement. Ce sont des ingénieurs ou des architectes qui ont fait le plan du bâtiment. C'est ce que moi je ressens. Et quand nous allons faire ce qui est conforme, nous n'aurons plus ce problème.
Au cours des 4 dernières années, le Nigeria a enregistré plus de 60 cas d'effondrement de bâtiments, faisant plusieurs centaines de morts et des dégâts matériels importants. Le dernier incident en date qui s'est produit à Lagos, l'état le plus affecté, concernait un bâtiment de 3 étages abritant une école qui s'est effondrée, faisant 20 morts dont 10 enfants et 45 blessés. Mais si l'effondrement du bâtiment est un monstre redouté, la gestion des permis de construire et le processus de contrôle du développement semblent poser un problème encore plus important, car la corruption dans le processus d'approbation de ces permis l'économie est devenue difficile à gérer. Une corruption qui implique également le personnel des entreprises de construction. Dadi Panan vient de l'état du plateau.
Récemment, nous avons été victimes de ces mêmes problèmes dans l'état du plateau. Et quand vous enquêtez bien, souvent la corruption est à la base de tout. Parce que vous découvrirez quel genre de personnes étaient responsables de faire le choix des matériaux qui doivent être utilisés. Vous allez comprendre que ces gens ne font pas réellement leur travail.
Pour y mettre fin, il faudra un engagement considérable de toutes les parties concernées. L'ingénieur Joseph Odikouré, du Conseil des ingénieurs du Nigeria.
Il faut avoir de bons spécialistes pour te conseiller. Cela est très important. Il ne faut rien négliger, comme par exemple le test du sol, et demander quel type de matériaux il faut utiliser et le plan qu'il faut adopter. Donc, le propriétaire doit poser des questions pour éviter de perdre son argent. L'ingénieur aussi doit poser des questions pour ne pas qu'il perde sa licence. Tout le monde doit faire son travail.
Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la journée internationale de la jeunesse, célébrée chaque année à l'initiative de l'ONU. L'occasion de braquer les projecteurs sur les jeunes d'Afrique, le continent avec la population la plus jeune au monde. L'Afrique en tire-t-elle profit? Mais pourquoi les défis tels que l'emploi, l'éducation et la migration des jeunes perdurent-ils? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Au Congo-Brazzaville, le mythique orchestre Les Bantous de la capitale fête ce 15 août ses 60 ans. Cet événement, qui coïncide avec la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du pays, donne lieu depuis quelques jours à des concerts musicaux. Reportage de notre correspondant Arsène Séverin.
Les chansons des Bantous de la capitale sont reconnues et fredonnées dans tous les Nganda et bistrots de Brazzaville. L'orchestre a marqué l'histoire de la musique congolaise depuis 6 décennies, comme le décrit ici Véran Carole Yanga, chroniqueur de musique.
C'est toute une richesse, tout un patrimoine national. C'est pas anodin si certains comparent l'orchestre Bantou à l'orchestre Aragon de Cuba. Voilà, donc cette comparaison vraiment veut tout dire. Si on parle de chansons intemporelles, c'est justement par rapport au contenu, au thème des chansons. On peut citer comme ça là des chansons comme Masua, Osalanganini, Aimé Wabolingo. C'est des chansons vraiment très thématiques, voilà, qui traversent vraiment les générations.
Comment, pendant 60 ans, les Bantous de la capitale ont marqué leur histoire et continuent de s'imposer sur le marché des disques. Eddy Gombi, expert en droit d'auteur et producteur des Bantous, explique.
Mais je pense que c'est le style musical. À l'époque, on avait un style que faisait un peu de l'autre côté, un peu grand calé, qu'on appelle le fiesta, en fait, ce mélange de rumba et de salsa. Et Bantou l'a repris. Et n'oublions pas que Essou avait une touche aussi, très salsa, très antille. Donc du coup, il y avait un mélange. Il y avait ceux qui avaient une histoire forte Kinshasa, il y avait ceux qui avaient une histoire forte Brazzaville ou extérieure. Donc ça fait que Bantou, très vite, s'est positionné comme un groupe international par sa musique et par sa capacité à se déplacer à travers le monde. Pamelo aussi, qui était un latin de formation, donc du coup, il a apporté cette touche. En fait, ce que Pamelo avait déjà apporté aussi ailleurs à Rochero, il a ramené ça chez Bantou, et Kabako, et pour moi, peut-être l'un des plus grands compositeurs congolais, hein. Il vient de Bantou. Donc, et Jerry Gérard, grand guitariste.
Le 60e anniversaire des Bantous de la capitale se confond avec les 59 ans de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Le groupe mythique a pour cela fait le tour du Congo en livrant les concerts musicaux. Ils étaient 6 cofondateurs des Bantous en 1959. Il n'en reste plus que le doyen Edo Ganga, 86 ans, mais habile sur scène. Mélancolique et nostalgique, il se sent seul.
Même si ce côté financier est minime, mais au moins qu'on fête ça. Et c'est après cette fête que moi, Edo Ganga, qui suis le rescapé de cette, je pourrais dire oh merci Seigneur.
Jean-Serge Essou, Pamelo Mouka, Cosmos Moutouari, Kabako Lambert ou Jerry Gérard et Nino Malapé ont été les grands noms des Bantous de la capitale dont les prouesses ont traversé les frontières congolaises. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
À partir partir du mois de septembre, VOA Afrique vous présentera Learning English, un programme entièrement en anglais pour vous aider à vous familiariser avec cette langue. La lecture posée, les phrases et le vocabulaire ont été spécialement choisis pour faciliter la compréhension de l'anglais parlé. À très bientôt, tous les soirs à 21h30 TU, après English USA, sur FM, sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.